Genève. Côté. Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission verte hebdomadaire Genève Côté Nature. Je m'appelle Virginia et j'ai créé l'association Nariès avec ma sœur jumelle Émilie, avec qui je vous présente évidemment cette émission chaque semaine.
Bonjour! Comme vous le savez, avec Nariès, notre travail a plusieurs facettes. Nous faisons du travail de terrain pour les espèces menacées, du travail de sensibilisation auprès du public et du travail de formation pour les futurs protecteurs de la biodiversité. Et ces trois facettes reprennent en réalité les différents axes qu'ont pris nos vies depuis que nous nous sommes lancés dans des études de biologie.
Nous sommes biologistes de terrain avec un master en éco-éthologie évolutive, soit l'étude du comportement des animaux en milieu naturel. Grâce à cela, nous travaillons sur le terrain pour aider les espèces en danger. Sur Genève ou sur Suisse, cela concerne le crapaud sonneur à ventre jaune, le torquel fourmilier, le lézard agile, la salamandre tachetée, etc. C'est grâce à cette facette de notre vie que nous avons rencontré l'Afrique du Sud, quand nous sommes allés faire la partie terrain de notre master, et c'est comme ça que nous avons ajouté la facette sensibilisation.
Et oui, parce qu'après avoir fini notre master, nous avons fait une formation de guide de terrain là-bas, et ça a été le coup de foudre. Non seulement, comme ça a toujours été le cas, on a adoré apprendre des choses sur la nature, les petites bêtes, les grosses bêtes, les arbres, les herbes, etc. Mais en plus, nous avons découvert cette relation avec le public. Quand on guide des promeneurs, le but est de leur apprendre à observer ce qui les entoure, à appréhender le monde sauvage différemment et à distiller des informations scientifiques ou des infos drôles sur les espèces qu'on peut rencontrer.
C'est ce concept que nous avons voulu ramener en Suisse quand nous avons quitté l'Afrique du Sud. Et c'est ce concept que nous mettons donc en valeur dans un des volets de cette émission de radio, le côté vadrouille. C'est donc une promenade que nous vous proposons aujourd'hui, pendant laquelle nous vous parlerons de l'endroit où nous sommes et de ce que nous observons.
Mais avant tout, n'oublions pas notre traditionnel défi de la semaine avec l'Eco-Challenge 2022. Cette semaine, il ne faut pas utiliser d'objets à usage unique, pas une seule fois de toute la semaine. On a déjà parlé de cette problématique maintes et maintes fois, et vous en avez sûrement déjà entendu parler dans d'autres médias, donc on ne va pas perdre de temps à répéter tout le gaspillage que ces objets impliquent au niveau des ressources qui les composent, de l'énergie pour les fabriquer, des déchets qu'ils produisent. Nous sommes certaines que vous êtes très au courant de tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Si toutefois ce n'est pas le cas, nous vous invitons à aller écouter l'émission de l'Eco-Challenge 2021 dans laquelle nous avions développé le défi numéro 7 à propos des objets à usage unique. C'est celle du 11 janvier 2021. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.
Mais en attendant, pour faire court, cette semaine, oublions les cotons-tiges jetables, les touillettes de café en plastique ou en bois, les serviettes en papier, les sachets plastiques, le cellophane, les cotons à démaquiller jetables, etc. Et on les remplace par des objets lavables et réutilisables. Des cotons-tiges de chez The Last Swab, du papier ménage en tissu lavable, des B-wraps pour éviter le cellophane pour recouvrir les restes de nourriture. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour avoir des trucs et des astuces pour réussir vos défis hebdomadaires. Pour le défi de cette semaine, nous vous proposons chaque jour une publication qui vous présente une alternative à un objet à usage unique.
Mais passons maintenant au sujet du jour, nous sommes donc dans un côté vadrouille. Et pour commencer cette promenade, nous vous donnons rendez-vous au début de la jetée du jet d'eau au bord du lac Léman. Alors, aujourd'hui il fait grand beau, on va profiter d'être un peu au soleil et parlons un peu de cette attraction emblématique de notre belle ville de Genève. Il faut savoir que le jet d'eau n'a pas été installé exprès pour envoyer dans les airs des litres et des litres d'eau. À la fin du 19e siècle, Genève a vu sa population presque doubler en 40 ans. Elle avait donc un besoin impératif d'eau pour répondre à cette expansion démographique et à l'essor industriel qui l'a suivi. Pour ce faire, une usine hydraulique a été construite sur le pont de la Coulouvrenière en 1886.
Tout marchait très bien, mais il a fallu trouver un moyen de réduire la surpression hydraulique en fin de journée, quand les artisans qui avaient utilisé de l'eau toute la journée ne travaillaient plus. C'était un travail très dangereux, qui ne pouvait pas réellement être prédit précisément. Donc les machinistes devaient se précipiter pour fermer les vannes au fur et à mesure que les industries cessaient leurs activités quotidiennes. On a donc eu l'idée de créer une vanne de sécurité pour évacuer le surplus d'eau dans les airs.
Au début, le jet d'eau ne faisait que 30 mètres de haut, mais c'était déjà une attraction touristique très prisée. Alors, pour les 600 ans de la Confédération en 1891, le conseil administratif de Genève a construit une rade pour mettre un nouveau jet d'eau au bout, qui cette fois a culminé à 90 mètres de hauteur. Ce nouveau jet d'eau n'était en activité que le dimanche et il était éclairé en blanc, et ce jusqu'en 1931 où l'éclairage ne valait plus rien à cause de la luminosité des quais.
Ce n'est qu'en 1906 que le jet sera en activité tous les jours de la semaine grâce à des pompes installées au bâtiment des forces motrices. Il continuera à fonctionner comme ça jusqu'en 2003 en se faisant arrêter tous les ans entre octobre et mars pour maintenance. Depuis 2003, il est actif toute l'année, sauf quand il fait vraiment trop froid et que les canalisations risquent de geler.
Il fait désormais 140 mètres de hauteur, il a un débit de 500 litres d'eau par seconde et l'eau sort à une vitesse de 200 km/h.
Voilà, vous connaissez maintenant tout sur le fameux jet d'eau de Genève. Mais nous ne sommes pas là que pour ses beaux yeux, alors marchons un petit peu. Nous sommes dans un côté vadrouille quand même. Nous allons donc aller à droite quand nous sommes face au jet d'eau et longer le lac sur notre gauche.
Alors côté histoire, les berges du lac ont toujours été relativement sauvages, aménagées dans un premier temps seulement par quelques petits pontons à l'époque. L'un d'eux est devenu célèbre parce que c'est là qu'un premier groupe de Suisses a débarqué le 1er juin 1814. C'était le Port Noir et c'est cet événement qui marque l'entrée de Genève dans la Confédération. Ce petit ponton est ensuite devenu un réel port en 1847.
En marchant, faisons un petit topo de ce que nous pouvons observer. Alors là, nous sommes dans un petit port, il y a plein de bateaux, mais on voit que le lac n'est pas très profond, il y a beaucoup de cailloux au fond, et il y a même quelques poissons, dont certains tout petits, ce sont des alevins, qui se faufilent à droite à gauche des rochers. Et il y a bien sûr des canards. Alors là, on croise monsieur et madame Colvert, donc on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Il y en a un qui vole d'ailleurs au-dessus des mâts des bateaux. Donc le canard Colvert, reconnaissable grâce à sa tête un petit peu bleu-vert, qui est de la même couleur que le petit encadré au niveau des ailes de la femelle. Tandis que elle a vraiment le reste du corps un peu brun. On voit aussi une foulque macroule. La foulque macroule, elle est souvent confondue avec la gallinule poule d'eau, mais elle est toute noire avec une espèce de protubérance blanche sur le front, tandis que la gallinule poule d'eau a une protubérance plutôt rouge avec un peu de jaune.
Alors on a de nouveau un mâle colvert. Alors il faut savoir que les mâles chez les oiseaux ont souvent des couleurs beaucoup plus importantes et beaucoup plus flashy que les femelles, parce que c'est ce qui leur permet d'attirer ces fameuses femelles, et elles vont faire le choix de leur mâle en fonction des couleurs qu'il peut présenter, parce que pour un individu, présenter des couleurs flashy, ça demande de l'énergie, ça demande de créer des pigments, ça demande, oh on a une nette rousse là, d'ailleurs qui est aussi tout à fait flashy. Alors c'est aussi évidemment que le mâle qui a ses couleurs avec ce bec, le bec et l'œil, quand on les voit de proche là comme ça, c'est magnifique, l'œil il est tout aussi rouge que le bec. Les femelles, elles sont pas du tout comme ça, elles sont vraiment tout dans les bruns. Elles ont aussi une délimitation un peu sur le haut du crâne, la calotte, mais tout est dans les bruns, gris, beige, il n'y a pas du tout ce bec rouge flashy. Mais donc juste pour finir l'histoire des mâles, donc si un mâle est capable de présenter des couleurs flashy, c'est qu'il était dans des conditions de santé suffisamment bonnes pour pouvoir gaspiller un petit peu d'énergie pour fabriquer des pigments et ainsi montrer des couleurs vraiment importantes et imposantes pour attirer les femelles. Et donc ça montre qu'il n'est pas plein de parasites, qu'il n'est pas plein de maladies, qu'il était vraiment en bonne santé, et ça en fait un bon géniteur pour la future progéniture.
Et là, on voit derrière un mâle arlebièvre, donc le corps blanc, la tête noire, un bec orange, du noir aussi sur le dessus du corps. La femelle, elle aussi, montre un dimorphisme sexuel, donc une autre coloration vu qu'elle a la tête brune. Ce sont des oiseaux qui ont un bec un peu crochu au bout parce qu'ils mangent énormément de poissons et ils l'utilisent pour les attraper.
Alors concernant ces trois espèces de canards, on va en compter trois, on va pas compter la foulque pour l'instant. Donc on a le canard colvert, on a le arlebièvre et on a la nette rousse. La nette rousse est peut-être l'espèce la plus végétarienne. Elle a un régime alimentaire qui est vraiment composé de végétaux, même si parfois elle peut ajouter des mollusques, quelques crustacés, des petits poissons, des choses comme ça à son alimentation. Après, on a le canard colvert qui a une alimentation vraiment omnivore. Alors, c'est vrai qu'entre les saisons, il est beaucoup plus végétarien, mais en période de reproduction, il va vraiment chercher la nourriture animale et il va manger des escargots, des poissons, des têtards, des insectes, etc. Et à côté, le dernier, bah, le Arlebièvre, comme Virginia l'a dit, de par son bec, il va vraiment vers beaucoup de poissons et occasionnellement un petit peu des mollusques, des crustacés aussi. Mais c'est vraiment le plus carnivore d'entre eux.
On continue à marcher. Alors, des aménagements ont vu le jour ces dernières années dans ce coin-ci des quais et notamment sur la plage des Eaux Vives. Alors, nous allons nous diriger gentiment vers elle et voir que depuis 2 ans, la nature a repris ses droits et plus de 90 espèces, dont certaines assez rares, ont élu domicile dans la nouvelle roselière des Eaux Vives. Mais avant toute chose, nous allons faire notre traditionnelle pause musicale.
Alors, aujourd'hui, nous allons écouter Alibert et sa chanson du lac Léman, qui a des airs un peu rétro, qui met à l'honneur notre beau lac et qui dit à quel point il fait bon se promener sur ses rives.
Radio Cité Genève.
Depuis longtemps, on nous a chanté des pays pleins de beauté. La rivière et ses bords fleuris, le Lido, le Missouri. Mais il est un coin où toujours les cœurs renaissent à l'amour. Quand le soir descend sur le lac Léman, qu'il est doux d'aller tendrement rêver sous les cieux et goûter à deux du bonheur, l'instant délicieux. Dans la nuit, le vent qui caresse porte au loin serments et promesses. C'est le plus charmant paradis d'amant quand vient le soir sur le lac Léman. Sur le lac Léman, qu'il est doux d'aller tendrement rêver sous les yeux et goûter à deux du bonheur, l'instant délicieux. Dans la nuit, le vent qui caresse porte au loin serments et promesses. C'est le plus charmant paradis d'amant quand vient le soir sur le lac Léman.
C'était Alibert et sa chanson du lac Léman. Vous êtes de retour sur Genève côté nature. Je m'appelle Virginia, je suis accompagnée de ma sœur. Et aujourd'hui, c'est dans un côté vadrouille que nous vous emmenons. Nous sommes maintenant à Baby Plage, au bord du lac Léman. Et c'est en compagnie des cygnes et des foulques macroules que nous allons faire cette deuxième partie d'émission. Alors, en tant que jeune voix, on connaît tous Baby Plage, qui était la seule plage en sable où on pouvait aller jouer en été quand nous étions enfants. Mais l'espace n'était de loin pas assez grand pour que toute la population puisse en profiter. Et c'est justement ce besoin de fraîcheur combiné à des étés de plus en plus chauds qui a fait qu'un projet a petit à petit vu le jour, la création de la plage des Eaux Vives.
Alors, c'est un espace entièrement gagné sur le lac dans le prolongement de Baby Plage. Niveau aménagement, il y a une promenade centrale en béton qui permet d'accéder d'un côté à la plage qui est mi-galet, mi-sable et de l'autre côté à une longue pelouse ornée de bosquets et d'une septantaine d'arbres, de cerisiers, de saules et de bouleaux.
Entre la plage et le quai vit maintenant une roselière, la roselière des eaux vives. C'est un biotope créé de toutes pièces en 2020 qui a été immédiatement adopté par la faune. Près d'une centaine d'espèces d'oiseaux y nichent, foulque macroul, canard col vert, cygne tuberculé, grèbe castagneux, nette rousse et autres types de canards. Alors que la baignade est organisée dans d'autres secteurs de la plage des eaux vives, elle est complètement prohibée de la zone nature pour ne pas déranger ce milieu sensible. De même, sur toute la plage, feux de camp, camping et musique forte sont interdits.
Eh bien, on vous parlait tout à l'heure de la foulque macroul et de la galinule poule d'eau qu'il ne faut pas confondre. Eh bien là, on arrive un peu sur les devants de la roselière et on a justement les deux espèces qui sont présentes. Là devant moi, j'ai une petite galinule qu'on remarque bien avec son bec rouge avec la pointe jaune. Et elle a le corps qui est plutôt noir mais quand même avec un peu de brun et des plumes de sa queue qui sont blanches. Et un peu plus loin, j'ai la foulque qui est vraiment uniformément noire avec le visage et le bec blanc. Donc on peut vraiment pas les confondre, il faut juste faire un peu attention quand on les regarde.
Alors l'avantage de cette roselière, c'est qu'elle favorise l'implantation de plantes aquatiques qui ont décliné ces dernières décennies, comme notamment le nénuphar blanc. Et en plus, cette roselière offre un habitat parfait pour certaines libellules et aussi un site de reproduction pour les poissons du lac et les oiseaux d'eau. Alors n'hésitez pas à venir avec vos jumelles pour observer la faune sans la déranger. Plusieurs points d'observation sont à votre disposition. Alors là, nous sommes à côté d'un grand panneau qui vous parle un petit peu de la vie sauvage au cœur de Genève en fonction des saisons. Donc là, au printemps, on peut observer évidemment le canard col vert dont on a déjà parlé, le harle-bièvre aussi évidemment, la poule d'eau évidemment. Il y a des fois un castor qui pourrait passer par là. D'ailleurs, à la fin de la construction de cette roselière, les responsables ont vu une branche de saule flotter et se sont demandé si c'était un humain ou éventuellement un jeune castor qui s'était approprié les lieux. Et non, il s'est avéré que c'était un humain, mais le castor, c'était une bonne hypothèse. Donc voilà, on nous parle aussi du brochet, qui est un poisson d'eau peu profonde et qui vient effectivement frayer et pondre ses œufs dans les roselières. Et en parlant de reproduction, nous assistons en direct à un événement assez intéressant.
Alors c'est vrai que si vous arrivez à vous repérer avec ce panneau dont Virginia vient de vous parler, juste derrière, dans l'eau, il y a trois gros ronds en béton sur lesquels il y a de la végétation qui a poussé. Et on est en train de voir une foulque, on va encore parler d'elle, qui est en train d'y faire son nid. Alors il faut savoir que la foulque est une espèce monogame et territoriale, donc les couples restent vraiment liés. Et à peu près dans nos latitudes au mois de mars-avril, donc on est pas mal là maintenant, le couple commence à préparer son nid. Alors pour ce faire, les foulques vont choisir une zone peu profonde dans l'eau et le nid va être flottant. Alors il n'est pas flottant juste comme ça par magie, soit ils choisissent un végétal qui flotte, un tronc, soit ils vont utiliser une petite zone d'herbe qui a réussi à s'accrocher. Et là, en l'occurrence, on voit un des deux individus en train de ramener d'autres matériaux sur ces cercles de béton pour pouvoir bien tapisser et tout. Et en fait, le nid va être vraiment caché aux yeux des observateurs. Il va être perdu dans la végétation. Et la femelle va y pondre 6 à 10 œufs. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'ils éclosent, la nichée est répartie entre les deux parents. Et la femelle garde le nid avec sa demi-nichée, tandis que le mâle construit une petite plateforme à côté pour la sienne. Et ensuite, les jeunes s'alimentent seuls vers 4 semaines et ils vont aller un petit peu se balader autour. Et une nouvelle espèce est juste devant nous. C'est une petite bergeronnette grise. Elle est vraiment chou, on la reconnaît très bien. C'est un oiseau assez petit, mais qui a une très longue queue. En anglais, on vous en a déjà parlé, en anglais, elle s'appelle la wagtail, parce que quand elle s'arrête, elle bouge vraiment la queue de haut en bas. Et autrement, quand elle se déplace, elle fait vraiment un fort mouvement du cou, d'avant en arrière. Elle a tout le dessus de la tête qui est noir, et la gorge qui est noire, et tout le côté du visage et le front qui sont blancs.
Concernant le nid de la bergeronnette, elle ne niche pas dans l'eau. Elle niche plutôt dans des cavités profondes, donc sous les toits des maisons ou dans les fissures des murs des habitations. On peut aussi la trouver dans des carrières ou le long de cours d'eau si il y a par exemple du bois qui est stocké ou des murets qui pourraient être à proximité. Alors peut-être qu'en la voyant ici marcher, on peut penser qu'elle a réussi à trouver une anfractuosité qui lui convenait dans les quais du lac Léman. Nous avons maintenant de nouveau un harlebièvre qui passe devant nous. Alors les harlebièvres, côté reproduction, ils sont au taquet parce qu'ils ont une parade nuptiale complexe. Donc le mâle et la femelle se font face, ils dressent le cou, ils ouvrent les ailes, ils nagent de concert, ils émettent des cris sonores très forts, ils se tapent poitrine contre poitrine. Enfin bon, ce sont des parades nuptiales extrêmement impressionnantes à voir. Et au niveau de leur nid, alors le nid il est constitué d'algues. Il peut reposer sur un fond vaseux, mais il peut aussi affleurer la surface ou flotter complètement. Alors souvent il est quand même arrimé à quelque chose en profondeur. Alors les adultes y amènent des végétaux et ils recouvrent aussi les œufs de végétaux si les adultes s'absentent pour camoufler leur progéniture aux yeux des potentiels prédateurs.
Et alors, on vous a dit que cette fameuse nouvelle roselière était fort appréciée de la faune. Et il y a eu... Oh, on a le grabe qui vient de ressortir juste devant nous. Et donc, parmi les espèces rares qui sont là, on a eu récemment, donc là, on vous parle, quand l'émission est enregistrée, c'est début avril, une star qui s'est un peu baladée dans la roselière. C'était une marouette poussin. Apparemment, il y en a même une ou deux... sur le canton, il y en a à d'autres endroits de Genève. Alors la marouette poussin, c'est pas une espèce qui a l'habitude d'être chez nous, en tout cas pas à Genève. Elle est migratrice et elle se déplace en général la nuit et elle est très difficile à voir parce qu'elle sort peu à découvert de jour. Mais voilà, contrairement aux habitudes, tous ces derniers temps, il y a bon nombre d'ornithologues qui sont venus lui tirer le portrait dans la roselière des eaux vives. Et sur les réseaux sociaux notamment, on a vu passer de vraiment très jolies images. C'est un oiseau qui fait partie des échassiers, mais pas des très très grands échassiers, c'est pas aussi grand qu'un héron. C'est comme une petite caille avec des longues pattes. Elle vit donc dans la végétation et elle se nourrit surtout d'insectes, de petits mollusques, de vers, et elle peut aussi manger des graines et des bourgeons de plantes aquatiques. Son nid, c'est un peu comme celui de la foulque, il va être flottant et cette fois il est construit par la femelle et elle va l'installer dans la végétation en l'appuyant ou en le fixant même des fois à certaines tiges sur une certaine hauteur d'eau. En fait, c'est comme une petite plateforme. Si on en croit certains sites de type science participative qui recensent un peu toutes les observations faites par les ornithologues, amateurs ou chevronnés, il semblerait que la marouette poussin est encore dans le coin. Donc si vous voulez venir chercher cette petite star, n'hésitez pas à venir vous balader aux eaux vives.
Voilà, alors nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. Nous pourrions rester des heures devant cette petite roselière des eaux vives. Elle est vraiment magnifique. On a de nouveau des colverts qui passent devant nous. Donc on se croirait devant National Geographic. C'est vraiment génial. Mais il faut bien qu'on s'arrête un jour. Alors voilà. Au niveau des rendez-vous de Nariès, pas grand-chose en ce moment. On vient d'avoir un clic nature, on vient d'avoir la sortie nature d'avril pendant laquelle on a observé des araignées avec Pierre Loria, c'était génial. Et le prochain gros rendez-vous que nous vous proposons, c'est la fête de la nature au mois de mai. D'ailleurs, le programme est accessible à tous depuis le début du mois. Donc n'hésitez pas à aller voir fêtedelanature.ch sur internet. Vous y trouverez toutes les activités qui sont proposées au public pendant ces quelques jours de festival, donc le 20, 21, 22 mai.
Concernant ce que Nariès vous propose pendant la FDN, nous avons notre traditionnelle sortie nocturne, durant laquelle on vous emmène voir des amphibiens de nuit en pleine forêt. Je crois qu'elle est d'ores et déjà complète parce qu'elle est très prisée, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire un email. On fait toujours une liste d'attente parce qu'il y a de nombreux désistements de dernière minute. Donc on prévoit toujours de pouvoir avoir suffisamment de personnes qui puissent accéder à cette animation. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Autrement, notre animation phare de l'année va se dérouler en collaboration avec Printemps d'abeilles. Nous allons vers Hermance pour voir un sentier didactique qui a été réaménagé pour les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Durant cette sortie, nous allons faire donc une promenade et nous allons aussi faire un peu de bricolage puisqu'on vous propose de fabriquer des nichoirs à pollinisateurs que vous pourrez remporter chez vous après et des bombes à graines. et la troisième sortie de ce week-end de là. Cette année, nous en avons une troisième parce que Prégny-Chambézy nous a demandé de faire une balade au bord d'un étang dans sa commune. Donc, nous aurons aussi deux balades le samedi du week-end de la fête de la nature sur Prégny-Chambézy.
Toutes ces informations sont évidemment disponibles sur le site de la fête de la nature, donc fetedelanature.ch. Vous cherchez Nariès et vous trouverez tout cela et bien d'autres animations encore. Et en attendant, nous vous souhaitons une excellente semaine avec ce beau soleil qui est revenu. Et nous vous disons à la semaine prochaine pour un côté astuce.
Bonne semaine à tous.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.